les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous, comme chaque mois je vous propose une réflexion philosophique à partir d'un problème contemporain mis sous la lumière des philosophes et grands penseurs. Et ce mois-ci, voilà une question qui me taraude depuis longtemps. Comment peut-on être intelligent et avoir des idées terrifiantes, haineuses et si loin de la réalité?
Minute papillon! Le racisme, c'est une idéologie qui considère que certaines races sont inférieures à d'autres. Et c'est évidemment la cause de flots de haine et de violence. Pourtant, le racisme n'a en fait pas de raison d'être. Car nos différenciations génétiques, quelles que soient nos origines, sont en fait trop minimes pour nous séparer en races. Nous sommes tous des homo sapiens sapiens. À la limite, on aurait pu faire du racisme envers l'homme de Néandertal. Mais on lui a déjà tatané la gueule, il y a belle lurette. Ouais, mais sinon, t'es raciste, toi? Ah non, je suis quand même un petit peu plus tolérant que ça. Je suis espéciste.
Je m'explique. Il ne s'agit pas simplement de la question de la tolérance à l'égard d'idées contraires aux miennes, mais à des idées objectivement nulles, le racisme ou la misogynie. En effet, comment peut-on supposer que certains peuples sont plus intelligents que d'autres, que la couleur de peau peut déterminer la qualité intellectuelle d'un individu? Comment peut-on croire que les femmes sont inférieures aux hommes pour toute une série de tâches sociales, par exemple exercer des responsabilités politiques? Certes, un certain nombre d'auditeurs pourront me faire remarquer que ces idées ont régressé tout au long du XXe siècle. Mais d'autres ne manqueront pas de souligner qu'elles reviennent en force en ce début de XXIe siècle. Ai-je un exemple? Beaucoup, notamment parmi les personnages publics qui rythment le débat politique actuel. Mais ma lâcheté naturelle et légendaire m'empêche de les nommer. Je vais plutôt m'appuyer, pour illustrer mon propos, sur une figure marquante de l'histoire intellectuelle française, Charles Maurras. Né en 1868 et mort en 1952, nationaliste catholique, monarchiste antidémocratique, antisémite notoire, il a fondé le journal L'Action française, qui devint le fer de lance de l'extrême droite française d'entre les deux guerres, et qui se jeta dans les bras de Pétain en 1940, permettant une collaboration active avec l'Allemagne nazie. Pourtant, Maurras fut un grand écrivain, homme lettré, raffiné. Il fut même élu à l'Académie française en 1938, ce lieu éternel qui regroupe les plus grands hommes de lettres depuis le XVIIe siècle. Comment cela est-il possible? Comment peut-on être cultivé et défendre des idées aussi caricaturales que cette haine systématique à l'égard d'une religion ou d'un peuple?
Né dans ces magnifiques Martigues où il revenait chaque année, que fut Maurras? Une intelligence, mais une intelligence dévoyée. Un talent, mais un talent perverti.
Il faut donner à l'Allemagne la main-d'œuvre dont elle a besoin,
écrivait Maurras.
Il faut traiter les communistes prisonniers comme des otages et les exécuter sans tarder,
écrivait Maurras. Et l'Académie rejette cet homme qui n'a pas été l'agent de l'ennemi, mais l'ennemi même, cet homme qui a jonglé avec des idées, mais n'a jamais raisonné avec la chair et le sang. Un fauteuil est vide sous la coupole.
Le bon sens disparaît-il avec la culture? Lire les grands philosophes et les auteurs de l'Antiquité ne met donc pas à l'abri de la bêtise? Certains philosophes, tels Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts en 1750, ont souligné qu'effectivement la culture, au sens où on découvre, assimile et mémorise les grandes œuvres de l'histoire de l'humanité, peut apparaître, sous certaines conditions, comme une forme de corruption du cœur, car être cultivé peut nourrir l'amour-propre, l'ego, l'individualisme. Mais cela n'explique pas l'existence d'idées nauséabondes dans ces grands esprits. Ma thèse va donc être différente. Je vais suivre la distinction que fit Emmanuel Kant entre, d'une part, l'entendement et d'autre part la raison dans son plus que célèbre livre de philosophie, La critique de la raison pure, en 1781, ouvrage qui est l'équivalent de Notre-Dame de Paris dans le cœur des étudiants en philosophie, à la fois massif et indispensable, néo-gothique et source éternelle d'inspiration. Cette œuvre monumentale, donc, La critique de la raison pure, a l'ambition d'expliquer comment la connaissance humaine se construit. Kant y opère une analyse dite « transcendantale », c'est-à-dire qui explique les conditions de possibilité de la pensée. Ce serait une gageure de faire une recension de tous les éléments qu'il explique dans la fameuse Cripure, plus de 600 pages d'une densité rare. Mais je vais néanmoins utiliser une de ces distinctions fondamentales. Nous connaissons grâce à notre entendement et une idée, qui est une production de notre raison, n'est pas une connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Connaître, pour Kant, suppose un processus impliquant l'expérience de la réalité, c'est-à-dire ce que nous pouvons saisir par au moins l'un de nos cinq sens, un élément qui existe dans le réel. Certes, la perception n'est qu'une connaissance au sens pauvre du terme, car ce n'est pas parce qu'on peut voir par exemple des champignons dans une forêt qu'on a une réelle connaissance de la nature de ces derniers. La connaissance est un classement, une organisation des données, et même une réflexion sur l'enchaînement des phénomènes, Je cueille le champignon, je le mange, j'ai mal au ventre, je vomis, donc je sais que ce champignon est toxique. La connaissance humaine, fort heureusement, n'a pas besoin de passer par tous ces stades de vérification. Des connaissances rationnelles sont possibles sans toujours passer par les données empiriques. Nous n'attendons pas que tous les champignons provoquent des morts pour nous en méfier. Néanmoins, et c'est la thèse d'Emmanuel Kant, toute connaissance débute par une expérience et ne peut pas s'en passer. Une idée, au contraire, n'est pas une connaissance. C'est une représentation de la réalité. Mais selon Kant, cette idée n'a pas nécessairement de lien avec la réalité, car elle est produite par la raison humaine, qui n'est pas l'entendement. Nous sommes là au cœur de la thèse centrale de Kant. La raison n'utilise pas nécessairement un raisonnement rationnel, aussi surprenant que ça puisse paraître. La raison est une machine à fabriquer des idées qui n'ont pas nécessairement de lien avec la réalité.
Donc le problème de la raison, c'est qu'elle peut démontrer tout et son contraire. Elle peut démontrer que Dieu existe, comme elle peut démontrer que Dieu n'existe pas. Elle peut démontrer que nous sommes libres, comme elle peut démontrer que nous sommes déterminés. Et si la raison peut démontrer une chose et son contraire, c'est qu'il y a un problème avec la raison. C'est qu'on ne peut pas entièrement se fier à la raison, qu'elle a des limites.
La critique de la raison pure est une analyse de ce que produit cette raison pure de toute expérience. Et c'est là où cela pêche. Notre esprit peut déraper s'il confond sa représentation du monde et une connaissance objective. Kant étudie trois idées majeures. L'idée du moi, qui fonde selon lui la psychologie, l'idée du monde, à l'origine de la cosmologie, et l'idée de Dieu qui nourrit la théologie, c'est-à-dire le discours rationnel sur Dieu. Ces trois idées sont très puissantes et provoquent parfois des polémiques et des conflits entre les hommes, tout en se basant sur des illusions. Je peux croire que je me connais, que je connais le monde, et que je connais Dieu, alors que je ne fais que spéculer et nourrir une représentation parfois lacunaire, absurde, contradictoire. Prenons un exemple, l'idée du monde. Ce que j'en connais objectivement est très partiel. Il est fait de quelques voyages, de quelques leçons de géographie. Mais cela n'empêche pas d'avoir ma propre idée du monde, et parfois de m'y tenir en la défendant de manière agressive. Ce sont tous les préjugés que je peux vouloir mettre en avant. Kant ne considère pas que ces idées, même si elles sont fausses, même si elles peuvent être dangereuses, sont à abandonner. La critique de la raison pure n'est pas une critique virulente, une volonté de détruire ces idées. Il s'agit plutôt de délimiter l'usage que nous devons faire de ces idées qui débordent de notre raison. Kant est très clair. La raison ne doit pas servir de base pour construire une science du réel. Mais en revanche, ces idées peuvent avoir un usage régulateur. Elles permettent d'organiser, de donner du sens à la multitude des expériences que nous avons. Ainsi, l'idée de Dieu n'est qu'une idée, pas une connaissance. Mais elle peut permettre à des individus qui ont la foi de supporter un peu mieux l'absurdité des événements dont ils sont témoins, qui les angoissent. Leur idée de Dieu leur offre le sens que le raisonnement rationnel leur retire. L'idée de Dieu est peut-être une illusion, ou c'est peut-être une intuition qui correspond à une réalité. Nous n'en savons rien. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais l'idée de Dieu existe, elle, et elle aide des personnes qui y trouvent une forme de force.
Oui, Sheldon.
Quand vous dites que Dieu a donné son Fils au monde, vous parlez de la Terre ou de l'univers ?
De la Terre.
Mais si Dieu a créé l'univers, ne veut-il pas le sauver entièrement ?
Si, bien sûr.
Alors pourquoi avez-vous parlé de la Terre ?
La Terre est un synonyme de l'univers.
Alors si le plan de Dieu c'est de sauver tout l'univers, est-ce que ça veut dire que seul Jésus est capable de sauver les pieuvres extraterrestres ?
C'est ça.
Même si elles ne le connaissent pas ?
Oui.
Même si son apparence est terrifiante pour les pieuvres ?
Sheldon, si ces créatures sont nées sans péché, elles n'ont pas besoin d'être sauvées par Jésus.
Mais imaginons que des pieuvres, Adam et Ève, amènent le péché dans leur monde. Est-ce qu'elles seraient sauvées par un Jésus humain ou par un Jésus pieuvre ?
Revenons à nos premières idées, celles du raciste, de l'antisémite et du misogyne. Ont-elles le même rôle régulateur ? Peut-être. Elles rassurent, elles simplifient la réalité, justifient des choix irrationnels, mais en aucun cas ces idées sont des connaissances. Si, à propos de l'idée de Dieu, Kant précise qu'on ne peut définitivement pas dire si elle a un fondement réel ou non, ces représentations du monde nauséabonde que sont le racisme, la misogynie ou la xénophobie n'ont, elles, de manière certaine, aucun fondement réel.
Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
Pardon ?
Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
Je ne suis pas votre secrétaire.
Vous êtes la secrétaire de qui, alors ?
De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
De nombreux intellectuels ont démontré qu'elles n'étaient que des inepties. Mais rien n'y fait. Car c'est une autre caractéristique des idées produites par la raison humaine. Elles ont une capacité de séduction inaltérable. Reprenons le cas de Charles Maurras. Né à Martigues, cet intellectuel lettré était un nationaliste, qui avait donc une certaine idée de la nation. Il était conservateur, c'est-à-dire qu'il était déstabilisé par les changements de la modernité du XXe siècle. Et il monta à Paris pour animer les cercles monarchistes anti-parlementaires de l'Action française. Certains admirateurs de l'extrême droite française disent « Regardez, un homme si intelligent, si cultivé, il ne peut qu'avoir raison de détenir une part de la vérité. » Erreur. La vérité, c'est lorsqu'on confronte ses idées avec la réalité. La vérité est validée par l'expérimentation. La vérité, ce n'est pas le débat d'idées séduisantes par leur sophistication, par les fantasmes qu'elles transportent, par la nostalgie qu'elles entretiennent. La vérité, c'est un débat autour de faits qu'on peut interpréter, mais qui sont irréductibles à cette interprétation. Le racisme, par exemple, n'est jamais une idée qui résiste à l'examen des faits.
On en a tous un dans les cours de récré, dans les rues ou dans les magasins. Ils nous foutent mal à l'aise et ils nous retournent l'estomac. Les rouquins naissent porteurs d'une maladie qui leur donne des taches de rousseur, des cheveux rouges et une peau blanche. Cette maladie s'appelle la rouquinitude. Et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme.
Quoi ?
Les enfants atteints de rouquinitude ne peuvent être soignés. À cause de leur peau trop blanche, les rouquins ont peur des rayons du soleil. Ils sont pareils que les vampires.
C'est une incitation à la haine, pas un exposé. Personne n'a jamais eu la trouille des rouquins.
C'est vraiment désagréable de se faire interrompre tout le temps.
Méfions-nous alors de notre propre raison. Elle peut nous emmener sur des terrains troubles de la peur de l'autre, de la haine de l'étranger. La raison peut devenir folle alors. Elle peut justifier l'injustifiable, comme le fit Maurras lorsqu'il soutint la collaboration avec l'Allemagne nazie et accepta dès lors la déportation de milliers de juifs dont on se faisait une idée si fausse. Aujourd'hui, des polémistes cherchent à réhabiliter les choix du régime de Vichy en expliquant qu'il s'agissait de défendre une certaine idée de la France, que certains choix, la déportation des juifs, participaient à la défense de cette idée face à une réalité, à la défaite militaire, qui ne laissait pas d'autre choix. J'ai même lu dans un livre récent que le maréchal Pétain était juste un soldat, au même titre que le général de Gaulle. Mais c'est une erreur de raisonnement, hein. Les deux n'étaient pas animés par les mêmes idées. L'un pensait qu'il était normal que certains êtres humains meurent parce qu'ils étaient nés, l'autre refusait cette idée. L'idée n'est pas une connaissance. C'est une production abstraite qui régule et guide le comportement. Il n'y a pas de meilleur exemple pour expliquer cette théorie kantienne que les dérives de la collaboration à partir de 1940 et la résistance qui en parallèle s'est développée, mais aussi les tentatives de réhabilitation auxquelles on assiste aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut être intelligent, cultivé et avoir des idées horribles. C'est dans la nature de l'esprit qui croit que ces idées sont des connaissances, alors qu'elles ne sont que des illusions. Cela peut s'appliquer à tous, me direz-vous, et pas seulement aux intellectuels racistes, c'est vrai. Mais alors que parfois certains peuvent se tromper dans leurs idées, nous avons une certitude indubitable. Le racisme est toujours le fruit d'un discours faux. Vous pouvez retrouver cette chronique et quelques-unes supplémentaires dans le recueil édité sous le titre « Chronique par Mont et par Vaux », disponible dans toutes les bonnes librairies. Je remercie RPH pour avoir rendu possible ces chroniques, et plus particulièrement Solène à la technique et Samuel au montage. Si la philosophie vous intéresse, vous pouvez participer à des cafés philo au local de Hopla à Campagnan ou à la librairie 1.1 de l'Odève. Le prochain thème sera la médecine des désirs. Mais en attendant, je laisse ce dernier mot à Jacques Higelin.